Bonjour Denis, bonjour à nos auditrices et auditeurs, nouveau numéro de 13 Passions qui vous fait patienter avant la reprise des divers championnats, mais ça, nous aurons peut-être une petite idée vers 18h40-45 avec le responsable de la commission médicale Jean Guillaume qui nous en dira un peu plus. Et puis nous allons avoir comme invité Denis, nous aurons Valentin Ferré.
Il est déjà là, hein?
Oui, centre ouvrier du grand FC Lisignan 13. Nous aurons également les informations internationales et le 13 dans l'histoire. Bonjour Denis.
Bonjour Nicole, bonjour Roger, bonjour à toutes et à tous.
Alors on va commencer Denis par l'interview de Valentin Ferré, un excellent joueur du FC Lisignan 13, c'est bien ça Denis?
Ah ben bien sûr, c'est avec un grand intérêt, un grand plaisir qu'on va recevoir pour la première fois ce garçon très sympathique par ailleurs, mais aussi grand joueur du FC Lisignan. Bonjour Valentin.
Bonjour à tous.
Bonjour Valentin.
Bonjour.
Allez Denis.
Ah, oui alors Valentin, oui, on est heureux de te recevoir, je te tutoyais. On te trésiste, je tutoie.
Tu pourrais être son grand-père.
Voilà, exactement. Mais j'ai connu son grand-père. Alors, bon, il était un peu plus âgé que moi quand même. Alors, oui, Valentin, bon, ça nous fait plaisir de te recevoir. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, et donc la première question va venir avec, c'est parce que tu es le prototype du joueur du FC Lisignan, puisque si je ne me trompe pas, Valentin, si je me trompe, tu me rectifies. Avec Damien Cardas, tu es le joueur, peut-être pas en âge, mais le plus ancien à porter ce maillot vert et blanc. Et même peut-être, et compte tenu que Damien Cardas a fait une interruption pour la bonne cause, pour rejoindre durant quelques saisons le Dragon Catalan, tu es certainement celui qui porte ce maillot vert et blanc depuis le plus longtemps au sein du club.
Oui, il y a des chances. Ouais. Il y a des chances avec ceux de ma génération, 93, voire les 92 aussi, qui sont restés, comme Maxime Benos, Benjamin Thor. Voilà, on est quelques-uns encore à jouer, qui ont connu, on va dire, depuis 10 ans, l'élite avec des couleurs vert et blanche.
Alors, ça les est âgés. Est-ce que tu peux nous faire un peu, nous dire... Nous t'ont donné le parcours que tu as fait, alors, de quand c'est que tu as commencé à jouer au rugby, à quel niveau, enfin, etc. Est-ce que tu as bien démarré à Lisignan dans les petites catégories, ou est-ce que tu as démarré dans un club des Corbières? Explique-nous un peu ta carrière.
J'ai commencé, j'avais mon papa moi qui jouait au rugby, donc qui a joué à Lézignan également. J'ai commencé dès le plus jeune âge à l'école de rugby donc d'Ornaison jusqu'en Poussin me semble, où après j'ai rejoint donc l'école de rugby lézignanaise jusqu'en junior où j'ai été champion de France. J'ai fait ma première cape avec l'élite quand j'étais junior deuxième année, donc à 18 ans, et après je suis parti un an avec la réserve des Dragons, où j'ai pu côtoyer et m'entraîner donc avec les Dragons, et je suis revenu après, je n'ai pas bougé de l'équipe élite de Lézignan.
Voilà, donc c'est un parcours, on va dire, à part cette petite année que tu as passée, du coup, alors là aussi c'était pour la bonne cause, hein, mais en fait c'est un parcours quasiment tout vert et blanc, et puis bon... Comme tu le dis, tu es sorti de d'Ornaison. Bon, il y en a. Vous êtes nombreux avec évidemment Rémi Cassie, évidemment, hein, mais enfin, vous êtes nombreux du côté du rugby à 13 et des Lisignanais. Ornaison, c'est un endroit où on sème des graines de trésistes.
C'est ça.
Mais c'est vrai. Ornaison, tu donnes un coup de pied dans une poubelle, il sort plein de jeunes trésistes.
Ouais. Bah, c'est vrai que je sais que toute ta famille et toi, vous êtes une famille, tu viens d'une famille d'origine, tu l'as dit, où le rugby à 13 et le Feuzeleu, les deux, vous sont accrochés au cœur.
Oui, oui, oui. Vous avez parlé de mon grand-père qui était qui écrivait pour l'Indépendant.
C'est pas geste,
du côté,
ouais,
de ma mère, voilà, et du côté de mon père, où mon père a évolué justement au plus haut niveau français, donc en élite, quoi. Donc oui, en effet, je pouvais pas y échapper, je parle.
Alors, donc, en plus, bon, il me semble que tu es un garçon, même papa, parce que je crois, tu es le garçon par excellence qui a joué, si je ne me trompe pas là aussi, hein, à tous les postes derrière, on va dire. Pour l'instant, tu n'as pas encore joué pilier, mais derrière, je crois que tu as occupé le poste d'arrière, tu as joué en charnière, à l'aile, et maintenant au centre, si je ne me trompe pas.
Et maintenant au centre, ouais, voilà. Ouais. Au centre, j'ai évolué, bon, c'était en cadet, et après, ouais, j'ai plutôt évolué à l'aile ou à l'arrière, et en demi, ouais.
Voilà,
et à tous les postes derrière.
C'est quand même exceptionnel, je dirais, parce que, bon, déjà, bon, des garçons polyvalents, bon, c'est vrai qu'on en trouve, mais à être aussi polyvalent, autant polyvalent à tous les postes, parce que jouer au centre, à l'aile ou en charnière, hein, ou c'est pas, bon, entre on va dire aile et arrière, bon, il y a des similitudes, hein, bon, mais jouer en charnière, et je t'ai vu jouer en charnière aussi, c'est autre chose. Donc ça veut dire que tu as une polyvalence, entre guillemets, exceptionnelle.
Oui, ben, pour avoir y joué, ben, il le faut, hein, de toute façon, ça c'est obligatoire. Hein. Après, on voit que quand même tous les joueurs qui ont connu un certain niveau, on va dire, et un certain rythme d'entraînement, parce que je suis passé évidemment par des écoles, par tout ce qui est crêpes, c'est parcours scolaire avec le sport études. C'est vrai que bon, on a cette aptitude à pouvoir évoluer sur plusieurs postes, parce que on apprend évidemment à pouvoir être polyvalent aussi, quoi.
Et alors, autre qualité, bon, je sais que ton humilité va en souffrir, autre qualité, c'est que tu es un redoutable finisseur. La preuve qu'actuellement, tu es en tête du classement des marqueurs d'essais du champion de France élite, avec 12 réalisations, hein, si je ne me trompe pas, si je n'en ai pas oublié.
Okay.
Et donc, bon, je ne sais pas, alors je voulais te demander, est-ce que tu as bon, parce que moi, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas les éléments pour le faire. Est-ce que tu as une idée du nombre d'essais que tu as marqué? On va pas parler de... Mais au moins, en équipe 1 de Lézignan, depuis que tu joues, parce que tu en as marqué quelques-uns, quand, hein.
Non, j'en ai vraiment aucune idée.
Tu n'as aucune idée.
Vraiment, non.
C'est un peu le problème, malheureusement, du rugby à 13 français, quand on va en Australie, où ils connaissent au point marqué, ou même en Angleterre. Bon, nous, en France, malheureusement, on n'a pas suffisamment de statistiques dans notre fédération. Mais enfin, bon, dans tous les cas, bon, tu es un redoutable marqueur d'essai, tu es un chasseur d'essai. Et c'est vrai qu'il faut quand même, pour, bon, on le voit encore cette saison, que tu joues à l'aile ou au centre, etc. Donc il faut des qualités quand même très propres pour être comme au foot, le buteur qui est là pour mettre le but au moment. À 13 aussi, il faut être le finisseur qui va être là pour conclure l'attaque ou pour créer les conditions, pour faire le sprint, etc. Donc il faut avoir un sens du jeu un peu particulier.
Oui, bien sûr. Après, c'est vraiment la première année où je me retrouve réellement à ce poste et à ce point à devoir finir les actions, mais c'est vrai que c'est... Bon, on le travaille évidemment, hein, à l'entraînement, la régularité de jouer à côté d'un certain joueur ou d'un autre va aider la chose. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure, dans la saison où je vous parle, j'ai quand même la chance de jouer à côté de Rémy Marginet, qui est quand même une personne qui s'est créée. Après, derrière, obligatoirement, c'est plus simple à... Pour finir, mais oui, réellement, c'est la première année où je me retrouve quand même dans une situation réellement de finisseur. Normalement, en tant qu'arrière ou demi, je suis plutôt, au contraire, celui qui fait marquer les autres.
Ouais, quand tu joues à l'aile, quand tu... Bon, moi,
parce que t'es... Évidemment, il faut.
Voilà. Bon, c'est-à-dire que quand même, bon, alors tu as... Bon, t'as les qualités de créateur, évidemment, mais t'as les qualités de puncher, c'est-à-dire que il faut sentir le jeu, c'est-à-dire que, bon, quand il y a une action qui est menée, il faut être là pour être le gars qui termine, qui va être là, et puis aussi tu as des qualités de vitesse, hein, qui font que tu es capable de, si tu prends un ballon dans un trou, ou sur l'aile, ou en débordement, enfin, peu importe, tu es capable de faire un sprint de 50 mètres et que personne ne puisse te reprendre.
Oui, c'est ma qualité première, ouais. Ouais. La vitesse, ça. Bon. C'est exact.
Tu sens le jeu, tu sais où, là tu parles de Rémi Marginé, etc., mais ça peut être au soutien d'un avant ou d'un autre joueur, tu sens pour être là au bon moment, au soutien ou pour récupérer le ballon au moment où décisif pour aller le planter sous les poteaux.
Ouais, voilà, c'est comme je vous disais aussi, c'est apprendre à connaître les coéquipiers avec qui on joue à côté et pouvoir réagir évidemment après en conséquence dès lors qu'il y a une action pour justement être au bon moment au bon endroit. C'est ça.
Moi je vous ai posé une question. Oui, s'il avait le choix, si on lui imposait le choix pour un poste définitif, qu'est-ce qu'il choisirait? L'arrière, le centre ou à l'aile?
Alors, ça c'est compliqué.
Ou à la charnière.
Alors moi, là où je me régale, c'est j'aime jouer à la charnière, ça c'est clair. C'est un poste où je me régale de jouer parce qu'on est réellement au cœur du jeu. On a quand même des responsabilités. C'est vraiment le poste où je préfère jouer. Après, pour moi, le poste où je suis le plus... où je peux être le plus productif, on va dire, ça serait à l'arrière, mon poste quand même de prédilection. Ouais.
Mais bon, on a remarqué avec Denis, on a remarqué en suivant l'évolution de l'Union, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes de ballons. Il n'y a pas que les Unions d'ailleurs, mais ça vient d'où ça?
Ben je sais pas. Enfin, je sais pas. Alors est-ce que c'est est-ce que c'est l'envie de peut-être trop jouer avant même de... Je vais vous parler justement des relations qu'on a entre joueurs et ça reste très important pour nous d'avoir une relation entre nous, de se connaître, d'avoir le bon timing de passe, le bon timing de course, et c'est ce qui nous manque. Et en fait, on est souvent dans la précipitation et c'est là où on tombe un peu de ballon. Nous on a eu des périodes un peu compliquées où on s'est entraîné que deux fois par semaine. Se manque aussi un petit peu d'entraînement ensemble, parce qu'après évidemment il faut sélectionner les exercices quand on nous supprime un entraînement en semaine parce qu'on a joué le samedi. C'est un peu compliqué, donc là je pense qu'on va mettre l'accent réellement sur notre jeu et monter en puissance par rapport à ça.
Et est-ce que par moment, excusez-moi l'expression, est-ce qu'on n'a pas un peu la grosse tête? On l'a vu contre Avignon, les Ignans ont fait le trou, puis vous êtes éteint au fil des minutes et c'était moins sain qu'Avignon vous casse sur le poteau. Donc comment vous expliquez ça?
C'est ce que je vous disais, quoi. C'est vrai qu'on veut, parce qu'on sent qu'on a quand même les individualités, c'est sûr. Le potentiel, pareil, c'est on l'a pour reproduire un jeu qui tendrait à être meilleur. Et aujourd'hui, on a quand même cette envie-là de démontrer qu'on pourrait jouer différemment. Et le résultat est contraire, dans le sens où on est précipité, qu'après, dès qu'on commence à faire une ou deux fautes, on n'arrive pas justement à se remettre dans la tête de travailler dur et d'avancer, repartir un petit peu sur ces bases de rugby qui sont le combat et l'avancée. C'est ce manque là, si vous voulez, quand on commence à faire des erreurs, on continue à jouer, c'est pas vraiment positif pour l'équipe, et on l'a vu contre Avignon où on a failli perdre. Hein. Ouais.
Alors, Valentin Ferré, quelle équipe vous craignez la plus dans ce championnat de France Elite 1?
C'est compliqué, la plus. Moi je pense qu'on va avoir quand même de gros rivaux, et notamment Villeneuve, Carcassonne et l'UTC, parce que bon, déjà malgré les matchs en retard, on voit qu'ils sont quand même très proches de nous, donc ça montre qu'ils ont des bons résultats. Ils ont des individualités, on voit l'UTC qui commence à avoir un jeu qui se développe, on a Carcassonne qui est en place depuis le début de la saison. avec très peu de blessés, très peu de turnover, donc on voit qu'ils sont en place et qu'ils travaillent bien ensemble. Et on va avoir Villeneuve qui va monter clairement en puissance vu les joueurs qu'ils ont dans l'équipe.
Denis ?
Oui, justement pour continuer là-dessus, est-ce que bon, ce Covid qui malheureusement touche parfois certaines équipes ici ou là, qui oblige que certains matchs à être reportés, même si on va en parler tout à l'heure avec Jean-Guillaume, il y a de nouvelles règles entre guillemets qui vont être mises en place pour essayer que par la fédération pour essayer que moins de matchs soient reportés. Et puis l'absence du public, est-ce que ça vous perturbe pas un peu d'une part dans votre préparation? Parfois c'est match reporté au dernier moment ou trucs comme ça. Et puis l'absence du public, on sait qu'à l'Élysée, le public compte beaucoup aussi. Hein. Et donc, est-ce que vous, en tant que joueur, tout ça, ça ne vous perturbe pas justement dans votre préparation? Même si ce qu'on voit sur la pelouse, c'est pas nécessairement cette année, et puis pas qu'à l'Élysée, mais un peu, on sent au niveau élite depuis maintenant quelques saisons, je pense que toi, vous, en tant que joueur, tu le ressens aussi, une progression globale de ce championnat.
Alors pour commencer au niveau de la préparation, nous on a eu dès le début un discours d'Aurélien, donc Aurélien Colonie, notre entraîneur, sur le fait qu'il fallait, au-delà des qualités qu'on ne va demander à un joueur de rugby, en plus de ça, être vraiment, vraiment concentré sur notre préparation et sur le fait d'être en alerte, parce que de week-end on peut jouer comme ne pas jouer. Avoir une semaine d'entraînement qui saute parce que on a un, deux ou trois cas. Donc ça, le discours avait été clair de suite, on s'est préparé à ça. Donc pour l'instant, en plus de ça, on n'a pas été énormément touché, mis à part la semaine dernière et le match reporté contre Villeneuve. Donc pour l'instant, nous, ça ne nous touche pas trop, pourvu que ça durera. Après, pour reparler du public, évidemment que bon, surtout nous, à Lézignan, ça manque, hein, parce qu'évidemment ça va niveler un petit peu le niveau quand les adversaires viendront chez nous. Et pour l'instant, je ne parle même pas des phases de finale, si on arrive à être qualifié, ou là clairement le public et le manque surtout de public va se faire sentir. Voilà.
Alors, oui, vas-y, Roger, vas-y.
Oui, est-ce que Valentin Ferré peut faire les yeux doux à l'équipe de France?
Très honnêtement, c'est quelque chose que, alors comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas réellement un objectif pour moi aujourd'hui. C'est vrai que bon, ça serait une récompense évidemment de mes 10 ans d'élite, de ce que j'ai pu apporter à mon niveau à ce championnat, mais ça reste pas un objectif personnel pour moi, mais je le verrais plutôt comme une récompense, que ce soit pour une présélection ou un petit match. C'est toujours plaisant de porter le maillot tricolore. J'ai eu la chance de le faire en équipe de jeunes, et c'est vrai que il y a une saveur particulière.
Ouais, mais quand on est meilleur marqueur du championnat de France, et même si on est à moitié saison, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Bon, malgré tout, quand même, là, il y a des futurs encadrements du 13 de France, que nous, on ne connaît pas trop encore, hein, avec cette Coupe du Monde qui approche, bien, ça doit quand même être un peu dans les surveillés parmi les joueurs des hits qui peuvent prétendre éventuellement à être dans ce groupe qui viendra disputer la Coupe du Monde. Quand même si tu ne penses pas toi, il y a peut-être des gens qui y pensent.
Eh bien, je me le souhaite. Je me le souhaite.
Et est-ce que et le fait d'être de terminer meilleur marqueur, c'est pas encore. Je sais qu'il y a Damien Gardas aussi qui est derrière aussi, qui est pas loin. Il y a Gambaro de Carcassonne. Enfin, il y a Robin aussi de Villeneuve qui te talonne par là. Mais en fait, tu es devant et tu as, est-ce que quand même, quelque part aussi, même si c'est un sport collectif, le rugby à 13, bon, c'est quand même à être individuellement, c'est quand même un peu valorisant, non?
On est d'accord. Après, on est sur un sport qui est clairement collectif. Mais c'est toujours bien de... alors ça fait pas tout, hein, de marquer des essais. Il arrive d'en marquer, de pas faire un bon match. Enfin, on essaie de donner le meilleur, mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant et sympa individuellement quand justement on a le nom qui est en tête des marqueurs d'essais, ou quand un journaliste comme vous me dites voilà, pensez à l'équipe de France. Enfin, c'est toujours plaisant d'avoir des récompenses aussi individuelles sur un sport collectif.
Mais c'est vrai que la plus belle récompense, évidemment, ce serait de disputer, d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. Oui, après, pour ce week-end, alors juste pour ce week-end, vous ne jouez pas, puisque c'est un week-end de rattrapage, et que là, comme tu l'as dit, ce week-end, vous n'êtes pas concerné par le rattrapage, puisque le seul match en retard, c'est contre Villeneuve, et que Villeneuve a d'autres matchs, mais donc ils jouent contre Saint-Estève catalan. Donc ce week-end, vous ne jouez pas. Et le week-end prochain, il y a le derby retour, le 13 Limouxin qui arrive la semaine prochaine. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez travaillé déjà en direction de ce match? Cette équipe de Limoux, comment tu la sens?
Alors, on n'a pas encore travaillé réellement sur Limoux. Je pense que dès ce soir, on va commencer évidemment à en discuter. On avait eu un match assez dur là-bas, au match aller. Oui, à Limoux, exact. Après, c'est vrai qu'il leur manque. Alors eux, pour le coup, ils n'ont pas eu de chance avec les blessures. Il y a beaucoup de turnover dans l'équipe et on voit qu'ils ont du mal à se trouver cette année. La force qui faisait que Limoux était souvent en tête ou vraiment en haut du classement, c'était justement leur force là de se trouver, de travailler ensemble, d'avoir une équipe qui est très linéaire sur toute l'année. Et on voit qu'aujourd'hui ça leur fait défaut, mais ils ont quand même des individualités, ils peuvent des différences, et ça sera toujours un match compliqué évidemment sur le derby au doigt.
Bon, mais alors déjà. Voilà. Dimanche prochain, donc on ne peut pas dire tous au Moulin, puisque malheureusement il n'y aura pas de public. Mais bon, on sera nombreux devant les écrans pour voir ce derby le week-end prochain. Ça sera le match du week-end. Voilà, merci Valentin.
Merci Valentin.
Et donc on a été très heureux de te recevoir sur l'antenne Radio Marseillette.
Très content d'avoir été reçu. Je vous remercie.
Merci Valentin.
Au revoir.
Allez Nicole, une petite pause pour nos partenaires et après Denis, nous allons attaquer l'actualité internationale.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs, dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Allez, on va retrouver l'actualité internationale grâce à notre ami Thierry. Et bien tout ça, nous allons écouter religieusement Denis Arcas.
Oui, on va remercier une fois de plus notre ami Thierry qui nous prépare ces infos, moi en étant que le porte-parole. Alors, la première information au niveau de l'Afrique concernant le Maroc, le Maroc vient d'être désigné par la Fédération européenne qui pour l'instant gère le rugby à 13 au niveau du continent africain. Donc la Fédération européenne vient de désigner le Maroc pour que ce Maroc puisse être affilié à la Ligue internationale de rugby à 13, hein, donc la Fédération internationale de 13, avec un statut de membre observateur. Ce qui pourrait leur permettre, puisque de rejoindre le Nigeria et le Ghana, qui sont déjà membres observateurs au sein de cette fédération internationale, et plus récemment, également, comme eux, on va dire, le Cameroun est dans la même situation que le Maroc, puisque le Cameroun aussi, la demande est en cours d'évaluation pour être transmis, pour que l'adhésion de ce quatrième pays d'Afrique, pour que ce quatrième pays d'Afrique également intègre la fédération internationale. Alors, au niveau de la présidente de la fédération marocaine, c'est quelqu'un qui est très connu dans l'Aude, c'est Yamina Abdeslem, qui s'est occupée du rugby à 13 féminin, hein, dans l'Aude, il y a quelques années. Elle est présidente de la fédération marocaine et elle a déclaré « Nous sommes très heureux de recevoir cette confirmation que notre demande de membre affilié a été approuvée par la fédération européenne. Cela donnera une autre dimension à notre compétition nationale et ça légitimera notre existence au sein du ministère marocain des sports. » Elle a ajouté « Les projets objectifs de la fédération marocaine sont multiples. Notre priorité de travailler comme vitrine nationale via nos équipes filles et garçons, ainsi que nos clubs universitaires et notre 13 en fauteuil roulant. Tout le travail acharné et les efforts commencent à porter leurs fruits. C'est aujourd'hui que commence le véritable travail de développement. Cela commence par la préparation des futures compétitions de la Coupe d'Afrique et du Moyen-Orient. Et l'objectif est de faire partie du processus de qualification pour la Coupe du Monde de 2025. Voilà donc pour le Maroc qui renaît, où le rugby à 13 est en train de renaître après avoir connu une période de prospérité. Il avait un peu disparu des écrans. Et là, voilà que le Maroc revient au niveau de la fédération internationale. Alors, également au niveau, toujours au niveau africain, je vous disais qu'actuellement le rugby à 13 au niveau international, au niveau africain, est géré par la Fédération européenne. Et compte tenu que ce rugby à 13 est en train de se développer sur plusieurs pays au niveau de l'Afrique, eh bien, il y a des premières mesures qui commencent à être prises pour créer une fédération pour ce sport, pour le rugby à 13, sur l'Afrique et le Moyen-Orient, puisque pour l'instant, on essaie aussi bien en termes de compétition et là que d'organisation, de regrouper l'Afrique, tout le continent africain et tout le Moyen-Orient, qui lui, avec le Liban, etc., serait plutôt normalement fait partie de l'Asie. Mais pour l'instant, au niveau du rugby à 13, s'est raccroché à l'Afrique, et donc on est en train de préparer du côté des dirigeants de ces diverses fédérations nationales la création d'une structure internationale qui ferait que la fédération européenne pourrait laisser naviguer, on va dire, créer pour la création. D'abord, il y aurait la création de cette fédération africaine du Moyen-Orient, et ensuite donc qui prendrait en charge la gestion du rugby à 13 de ce continent, et la Fédération européenne, dont laisserait naviguer, même si certainement, pendant un certain temps, elle garderait un œil dessus. C'est important aussi que ce rugby à 13 se structure internationalement au niveau africain. Actuellement, il y a un groupe de pilotage de 5 personnes qui a été mis en place, pour charger de mettre en place une feuille de route, pour établir la gouvernance, l'administration, enfin, etc. En tant que membre de l'International Rugby League, de la Fédération Internationale, le Libanais, M. Naïev Abi Saïd, et l'Africain du Sud, le Dr. Franz Erasmus, ont été renommés automatiquement, et ils ont été rejoints par le Camerounais Karoul Manga, Yamina Abdeslem, la marocaine dont on a parlé, et Raymond, et ainsi que Raymond Sefi, directeur régional du Moyen-Orient, Afrique, auprès de la Fédération européenne, qui lui aura donc, qui agira en tant que président pendant les 12 prochains mois, donc pour mettre en place toute la structure. Alors il y aura des délégués, il y aura le Burundi, la République démocratique du Congo, le Ghana, la Libye, le Nigeria et même les Palestines qui ont été impliqués dans ce processus électoral. Voilà, donc et également il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour le travail en direction du Rugby à 13 féminin, évidemment qui sera compte tenu de son expérience qu'elle avait acquise en France, qui sera dirigé par Yamina Abdeslem. Voilà, il y aura donc bon voilà. Alors Madi Chouduri, membre du conseil d'administration de la Fédération européenne, a déclaré: ce sont des premières étapes importantes dans la formation d'une fédération qui représentera directement les intérêts de la région Moyen-Orient Afrique et qui est un élément clé de notre stratégie de développement à cet égard. Nous sommes extrêmement encouragés par la quantité d'activités actuellement entreprises au niveau des hommes, des femmes et des jeunes, et il y a un potentiel clair et définissable pour le sport sur ce continent et dans les pays où le rugby à 13 a déjà droit de cité. Voilà donc pour l'Afrique. Alors on va faire un petit tour du côté du Japon, il y a un tout dernier club de rugby league de rugby à 13 qui a été créé, qui s'appelle les Abido Ducks, qui va disputer la Coupe nationale du Japon, qui doit être élargie en 2021. C'est vrai que, bon, évidemment, si le Covid laisse toutes les choses se faire tranquillement. Alors ce club est basé à Shiba, à l'est de Tokyo, sur l'île de Honshu, et ça deviendrait le troisième club basé en dehors de la capitale de Tokyo. Donc la Coupe nationale du Japon se joue depuis 1998, et la dernière n'a pas eu lieu en 2020, mais la dernière compétition a eu lieu en 2019. Plusieurs équipes, il y avait même, citons, toutes les équipes n'étaient pas engagées non plus dans cette compétition. Donc là, on en est quand même au Japon, c'est vrai que, on en est au balbutiement. Hein. Allez, on vient à l'Europe, en Espagne. Alors voilà, l'Espagne, vous savez, où le rugby à 13 tente de faire craquer, l'œuvre rugby à 13 est en train de prendre de plus en plus d'importance. Et là, voilà, il y a le Rugby 13, le premier magazine de Rugby League, écrit totalement en espagnol, qui vient de naître, en particulier pour les fans de Rugby League en Espagne, avec publicités, interviews, des nouvelles alors il y a un site, on peut aller également le retrouver, si on ne peut pas se le procurer, un site, ça s'appelle www.rugbyleague.es, hashtag rugby-13-3. Voilà, donc vous tapez Rugby League Espagne, vous arrivez sur le site de la Fédération espagnole, et derrière vous pourrez trouver, ça vous dirigera sur ce magazine de rugby à 13 en Espagne. Et donc voilà, la dernière information, c'était une information qui rejoignait ce que je disais, le fait que le Cameroun ait été, j'en ai déjà parlé, le Cameroun qui est donc actuellement dans la candidature pour devenir membre affilié, membre observateur de la Fédération internationale, est actuellement examiné. Donc voilà, j'en avais parlé tout à l'heure quand j'ai parlé également du Maroc. Voilà donc Roger pour ces informations internationales que nous devons à notre ami Eric.
Très intéressante, remercie Guy, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Je pense peut-être qu'on va faire peut-être une nouvelle pause et on va attaquer le 13 dans l'histoire, qui sera suivi de l'interview de Jean Guillaume, qui nous parlera du Covid et de certainement ce qu'ils envisagent pour la reprise des championnats, autres que le championnat élite 1.
Le rugby à 13 vous est présenté par...
Restaurant La Barbacane, depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'un bon conseil pour vous aider et vous soutenir au quotidien? Le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex, expert comptable, avenue Claude Bernard, à côté du Conseil Général à Carcassonne, est à votre écoute. Les missions d'assistance et de conseils les plus étendues vous sont proposées dans les différents domaines de la gestion d'entreprise, comptabilité, droit fiscal, droit des sociétés, droit social, création et reprise d'entreprise. N'hésitez pas à contacter le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex au 04 68 71 19 36.
Assurance Jérôme Dupin, agent général Allianz, pour une solution simple et idéale à tous vos besoins, auto, habitation, santé, financier. Assurance Allianz, cabinet Ten et Dupin, 295 chemin de Mâquins, ZI Labourguette à Carcassonne, près de Décathlon.
Allez, on poursuit 13 Passion. Le seul magazine de rugby à 13, eh bien, c'est sur Radio Marseillette. Denis, le 13 dans l'histoire, deuxième épisode.
Alors, on est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais pas, enfin, lors du premier épisode, on avait parlé un peu de la création du rugby en général en Angleterre. Là, aujourd'hui, on va attaquer la création, toujours en Angleterre, de la Rugby League. Donc, ce rugby qui a été créé en Angleterre au 19e siècle est le sport, on l'avait dit, des grandes écoles et universités britanniques. Il dépend exclusivement à ce moment-là de la nouvelle fédération qui a été créée, la RFU, Fédération de rugby de la Rugby Union, ce sport s'étend progressivement, comme le football l'a déjà fait avant lui, à toute l'Angleterre, à l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. Dans un premier temps, il le réalise par le biais universitaire et de ce que l'on pourrait appeler le réseau des grandes schools, dans lesquelles, évidemment, la classe aristocratique occupe le haut du pavé, mais que, néanmoins, les enfants de la haute bourgeoisie ont réussi à pénétrer. Et si les deux sports, le foot et le rugby, sont tout d'abord élitistes, comme les autres pratiques qui sont déjà existantes en Grande-Bretagne, hein, le cricket, etc., ils vont devenir assez vite populaires, contrairement aux autres qui vont rester enfermés sur eux-mêmes. Populaire tout d'abord par rapport aux jeunes qui souhaitent les pratiquer en tant que jeu, car ils ne nécessitent pas de moyens superflus autres qu'un terrain, des poteaux et un ballon, mais aussi par rapport aux spectateurs qui viennent assister aux rencontres, en particulier pour le foot, hein, mais le rugby aussi, en cette fin de 19e siècle, commence à attirer aussi ce public. Le développement de ce rugby nécessite évidemment la création de clubs, hors ceux du champ scolaire, et en particulier la classe ouvrière, qui est en pleine mutation et multiplication avec la révolution industrielle de cette fin du 19e siècle, et aussi la petite bourgeoisie commerçante et artisanale, qui est encore plus juste, qui est juste lettrée, ne peuvent à elles seules créer ces entités qui doivent être affiliées à la RFU. Par contre, la haute bourgeoisie, elle détient le pouvoir économique et la propriété des grosses entreprises industrielles dans les domaines en pleine expansion, en particulier la mine de charbon, textile et acier. Et elle entend imposer toute sa place dans tous les domaines de la société face à l'aristocratie, bon, comme ça s'est déjà fait en France précédemment. Elle détient, cette haute bourgeoisie, la possibilité de créer des clubs civils, hors clubs universitaires, qui sont pour l'instant, à cette époque, le noyau dur qui consiste du rugby. Alors, cette haute bourgeoisie, donc, détient tous les éléments pour participer au développement de ces sports. Elle a en particulier l'argent, mais aussi la connaissance des règles et de la pratique, des réseaux, car elle-même, elle fréquente le monde universitaire, soit directement ou par l'intermédiaire de ses enfants. Son implication va entraîner une croissance fulgurante du nombre de clubs. Ainsi, pour le football, la Football Association, la fédération de foot, qui gère le foot, ne compte en 1871, au moment de la création de la fédération du rugby, que 50 clubs. En 1905, donc 35 ans après, elle en fédérera 10 000. Mais aussi une modification de la base sociale d'une grande partie de ces nouveaux clubs. Ainsi, avant 1880, le rugby est pratiqué par des joueurs issus du monde étudiant, comme je le disais. Alors, pas un seul joueur ayant porté les couleurs de l'Angleterre à un match international entre 1870 et 1880 n'exerçait un métier manuel. Mais l'accès des clubs civils à ces sports va leur permettre de s'ouvrir à toute la société britannique, mais aussi au monde. Ainsi, en 1900, seulement, il n'y aura plus que seulement 37% des affiliés à la fédération de rugby qui proviennent du monde scolaire et universitaire. Alors, on s'aperçoit que 30 ans avant, c'était 100%. En 1900, il n'y a plus que 37%. En 20 ans, quel changement social ? Et progressivement, naît une différenciation entre les clubs créés et gérés par les ressortissants de l'aristocratie, dans les riches et hyper connues grandes schools et universités britanniques, principalement situées au sud de l'Angleterre, et les clubs dits en opposition, des clubs civils issus de la société industrielle, créés et gérés par la bourgeoisie patronale, dont un grand nombre est né évidemment dans les régions en plein développement industriel, à l'époque du nord de l'Angleterre. Ainsi, une opposition de classe va se doubler d'une opposition géographique. Opposition de classe, nous ne parlerons pas dans ce domaine de lutte de classe, au sens marxiste du terme, mais néanmoins on retrouve ici un affrontement entre la vieille classe aristocratique, nobiliaire, refermée sur elle-même et ses privilèges, de pouvoirs anciens, acquis sur les principes du sang et de la succession, et les nouvelles et multiples classes bourgeoises qui regroupent aussi bien les riches possédant des mines de charbon, des grandes usines de textiles ou d'acier, des grands moyens de transport, des banques, mais aussi des commerçants plus modestes, des propriétaires de petites fabriques. Alors, bien qu'exploiteuse elle-même, cette classe possédante, elle est exploiteuse elle-même de la nouvelle classe ouvrière, qui est en pleine construction, mais ensemble, elles vont contribuer, mais chacune à leur façon, à produire ces énormes richesses industrielles qui vont faire changer de dimension la société en ces 19e et début de 20e, en cette fin de 19e et début de 20e siècle. Ces nouvelles bourgeoisies se rendent compte que ce sont elles qui détiennent l'avenir du développement de leur pays. Elles comprennent qu'elles détiennent les clés de toute l'expansion à venir et en plus elles sont ouvertes sur les évolutions de la société et pas refermées sur elles-mêmes et sur leur passé qu'elles n'ont d'ailleurs pas. Elles en tirent les conséquences. Détenant le pouvoir économique, elles souhaitent pour le moins partager tout le pouvoir dans un premier temps pour l'accaparer entièrement ensuite à leur tour. Dans ces années de changement de siècle, cet antagonisme qui va exister dans tous les domaines de la vie de la société et que l'on pourra résumer à la lutte pour le pouvoir va se développer dans les deux sports très populaires que sont le football et le rugby. Parmi les idées que certaines nommeront les valeurs sur lesquelles les dirigeants aristocratiques du rugby fondaient leur sport, figurait en bonne place la notion d'amateurisme pur et dur, c'est-à-dire que le sport devait rester une activité de loisir pratiquée par des personnes sur leur temps personnel, sur leur temps libre, et qui donc ne nécessitait en aucune façon un défraiement d'aucune sorte. Le football, le rugby étaient donc considérés comme des passe-temps, du même style que la chasse à courre, et donc au départ avec peu d'enjeux, la victoire n'ayant d'importance que lorsqu'elle venait couronner une bataille dans une guerre, car elle était pour la gens nobiliaire synonyme d'accaparement de terres nouvelles, d'annexion, de rançon, de gloire personnelle. Voilà, donc la victoire sportive n'avait pas d'importance. Évidemment, le sport loisir impliquait que seuls ceux qui avaient du temps non occupé pouvaient le pratiquer. Cela revenait en quelque sorte à réserver ce sport au monde étudiant où l'immense majorité, rappelons-le, était issue d'une façon générale de l'aristocratie elle-même, ou dans tous les cas de la haute société qui disposait de beaucoup de temps à consacrer aux loisirs. Et cela en excluait tous ceux qui travaillaient énormément, c'est-à-dire la classe ouvrière en premier lieu, mais aussi nombre de membres de la bourgeoisie, y compris de la haute, propriétaires, gestionnaires, chefs d'entreprise, et qui dans ce monde industriel de masse étaient loin de disposer du même temps libre que l'aristocratie. Celle-ci accrochée. Oui, je termine deux phrases, Roger. Celle-ci accrochée à ses vieux principes ne voyait pas le monde changer, la société industrielle se développer, entraînant l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui allait devenir progressivement les acteurs majeurs de la vie sociale et sociétale. Voilà, Roger, pour aujourd'hui.
Voilà, dans l'état, merci Denis. Bon, c'est un vrai régal. La semaine prochaine, on aura notre épisode. Mais là, il est temps de retrouver Nicole. Est-ce que nous avons notre ami Jean-Guillaume en ligne?
Je l'appelle.
D'accord. Alors, du temps qu'elle appelle, on va en profiter pour dire que demain matin, alléluia, sur Baysport, roi, à 10h05, le test des aborigènes contre les Maoris All-Stars. Et ça se déroule, je m'en rappelle plus, mais Denis, je sais que...
À Townsville, dans le nord de l'Australie, si ça n'a pas changé. Là où, la ville où jouent les Cowboys.
Les Cowboys.
Du Nord-Queensland. Les Cowboys du Nord-Queensland.
Monsieur Guillaume.
Ça sent la reprise de la NHL. On était impatients quand même de retrouver ça, là. Bon, surtout que c'est
Monsieur Jean-Guillaume est là, hein.
Mais on va l'attraper de suite. Monsieur Jean-Guillaume, bonsoir.
Oui, bonsoir Roger.
Bonsoir.
Oui, bonsoir Denis. Bonsoir.
Alors Jean-Guillaume, on tire la langue. Les clubs d'élite 2 et autres séries, bon, ils sont là et ils jouent plus qu'un moment. Alors ils disent quoi, ils sont offerts. Alors je sais que vous allez nous apporter un véritable éclairage sur une éventuelle reprise des compétitions, notamment en élite 2. Avec quand même et quelques réglementations dues à cause du Covid.
Oui, tout à fait. Alors, je vais surtout, enfin, la reprise éventuelle, si les choses évoluent comme nous le souhaitons à la Fédération française de rugby à 13. Devrait pouvoir se faire autour du week-end du 11 avril, et pour pouvoir démarrer une compétition autour du week-end du 11 avril, il est nécessaire de démarrer une phase de préparation physique régulière avec des entraînements avec les contacts et des entraînements normaux à partir du 7 ou du 15 mars. Voilà, c'est... Donc, pour pouvoir démarrer la saison à la mi-avril, il faut pouvoir démarrer les entraînements au 15 mars. Or, aujourd'hui, les ministères de la Santé, les ministères de la Jeunesse et des Sports sont assez frileux, et nous allons demander des autorisations, des dérogations spéciales pour pouvoir développer les entraînements avec contact, et bien sûr, ces demandes dérogatoires, et pour pouvoir nous entraîner, bien sûr, hors couvre-feu, c'est-à-dire après 18 heures, et demander une dérogation pour les joueurs qui puissent rentrer chez eux à 21 heures. Et donc, ces futures dérogations, ces demandes de dérogation vont être appuyées par un protocole sanitaire extrêmement strict, extrêmement professionnel, qui a été travaillé, qui a été beaucoup réfléchi, et nous allons apporter en même temps que la demande de dérogation, nous allons proposer au club de respecter un protocole sanitaire strict. Voilà.
Alors quel est-il ce protocole strict?
Alors ce protocole sanitaire, il va d'abord être mis en place avec très prochainement et très certainement, pas la semaine prochaine, mais peut-être même en début de semaine prochaine, c'est-à-dire que nous allons faire des tests de dépistage Covid une voire deux fois dans la semaine, une fois en période de non-match, de préparation, et deux fois dans la semaine en période de match. Ces tests seront des tests qui seront faits avant les entraînements, de manière que à l'entraînement, les garçons qui viennent à l'entraînement avec un test PCR ou un test antigénique négatif, ce qui leur permettra de s'entraîner, et ce qui permettra aux garçons qui est testé positif au coronavirus de rester chez lui. Voilà, ça évitera les clusters, ça évitera les suppressions trop dures des entraînements pour les autres joueurs. En testant les gens deux fois, les garçons et les encadrants deux fois par semaine, nous espérons éviter la formation de clusters et donc les reports de matchs.
Et également, Jean-Guillaume, également, vous pouvez éviter les cas contacts, quoi, puisque si vous le faites avant les entraînements...
Exactement. Le but, jusqu'ici, notre protocole avait un petit défaut, c'est-à-dire que les garçons se testaient avant l'entraînement, mais ils n'avaient le résultat que le lendemain. Ce qui faisait que, lorsque l'un des garçons était positif, il avait déjà macéré la veille avec les joueurs au cours de l'entraînement ou dans les vestiaires ou dans l'espace de préparation de l'entraînement. Donc déjà au moment du résultat, à l'obtention du résultat, on se trouvait déjà avec une quinzaine ou une vingtaine de cas contacts. Donc c'était un protocole qui était pas bien adapté à nos entraînements. Aujourd'hui, nous proposons au club un protocole qui est pas beaucoup plus strict, mais qui impose aux joueurs d'arriver à l'entraînement avec un résultat de PCR ou de test antigénique négatif. Voilà, ce qui fait que d'emblée, les premiers entraînements sont des entraînements qui se font qui évite la clusterisation du groupe.
Donc ça, vous l'appliquez à l'élite 1 dès la semaine prochaine, hein?
Alors ça va s'appliquer à l'élite 1 dès la semaine prochaine. Bon, on va demander l'avis et la faisabilité des clubs d'élite 1, mais je crois que tout le monde a bien compris, à l'élite 1, tous les référents Covid qu'on a contactés par téléphone et tous les médecins des clubs avec lesquels on a pu discuter, ont bien compris que notre protocole était trop risqué, et le risque, c'était des reports de matchs de manière non maîtrisable. En isolant, alors là je parle des cas asymptomatiques, parce que la particularité de notre système, c'est que nous détectons, nous faisons des tests sur tous les joueurs. J'élimine complètement les joueurs malades. Lorsque le joueur est malade parce qu'il a de la fièvre, parce qu'il tousse, parce qu'il a un syndrome grippal et qu'il est testé positif au coronavirus, à ce moment-là, il ne rentre plus dans le protocole sanitaire de la Fédé. C'est un garçon malade qui va voir son médecin, et comme il est malade, il est mis en quarantaine pour une durée, actuellement, aujourd'hui, elle était de 7 jours, elle est passée à 10 jours. Donc ce garçon-là, de 10 jours, il n'est plus du tout en contact, il reste chez lui, il n'est plus du tout en contact avec le groupe de joueurs du club, il n'est plus du tout en contact avec les encadrants, il est chez lui, il est isolé, et de 15 jours, on ne le revoit plus autour du club. Voilà, ça c'est le cas des joueurs malades, avec des symptômes, ce qu'on appelle les cas symptomatiques. Par ailleurs, il y a tous les joueurs qui sont en bonne santé, hein, qui se sentent pas malades, qui sont pas malades, qui n'ont pas de fièvre, qui sont en forme, et qui pourraient être des cas, des porteurs de virus. Et c'est ces porteurs-là qu'on veut isoler, mais on veut l'isoler en amont, c'est-à-dire avant les entraînements. Il faut qu'ils aient le résultat de leur test avant l'entraînement. Ce qui est logique, ce qui est une attitude de bon sens.
Et une garantie, surtout.
Et une garantie de préserver le groupe et de préserver le futur et le rythme et le déroulement des matchs du dimanche. Voilà, donc on contrôle le mardi, on contrôle le jeudi, éventuellement, et le match le dimanche, en ayant pris soin d'éliminer les cas positifs.
Monsieur Guillaume, actuellement, un cas positif dans un club amène automatiquement le report du match. Là, est-ce qu'il faudrait davantage de cas? Enfin, est-ce qu'il y aurait un nombre de cas maximum? Au foot, je sais que c'est 11 joueurs dans un club. Il faut que le club dispose de 11 joueurs pour pouvoir jouer un match. Est-ce que pour, par rapport aux est-ce qu'il y a une limite de cas
avec le nouveau protocole, avec le nouveau protocole, dans la mesure où les joueurs ont été isolés avant le contact avec les autres, ça élimine la clustérisation et on peut considérer que jusqu'à trois joueurs positifs, le risque de jouer le match n'est pas un risque. Voilà. Au-delà, il n'est pas question de prendre le risque de contaminer et l'autre équipe et le reste du groupe.
Ça s'emballe dans le pic et le camphre, ça.
Tout à fait. Ce sont des odeurs très, très agréables pour les narines et pour les souvenirs.
Et par rapport au démarrage éventuel de l'élite 2, donc vous avez évoqué au tout début, ce que vous allez présenter au ministère des Sports et de la Santé, est-ce que ça ne concernerait que l'élite 2 ou ça pourrait concerner aussi des catégories comme les jeunes, par exemple, qui souffrent énormément
de la fédérale.
Oh, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau des jeunes, les juniors, les cadets, etc., ils souffrent énormément de ne pas pouvoir pratiquer le sport.
Ben, la demande elle sera faite pour les. Y a aussi les féminines. Oui, il y a aussi les féminines. Voilà, parce que les féminines ont une Coupe du Monde à jouer au mois de novembre, comme les hommes et comme les fauteuils. Et donc c'est du sport de haut niveau, qui est considéré de haut niveau. Dans les c'est vrai qu'on parle de l'élite 2, mais il ne faut pas oublier les féminines et ce championnat qu'on aimerait bien démarrer, dont les protocoles sanitaires seront les mêmes, que ce soit pour l'élite, pour les juniors, pour les fauteuils, éventuellement pour les féminines. Il n'y aura pas de distinguo. La rigueur sanitaire sera au rendez-vous de la reprise des championnats.
Mais il faut que les ministères acceptent la reprise.
Voilà. Il y a aussi les nouveaux masques qui sont en train de pointer le bout de leur nez, je dirais. Les masques qui ont été validés par l'AFNOR, les masques qu'on appelle masques Décathlon, puisque c'est Décathlon qui les a mis au point, qui sont les masques qui vont être réservés aux sportifs de haut niveau, notamment aux marathoniens, aux garçons qui font de l'athlétisme, etc., qui sont, paraît-il, qui ont été accrédités par l'AFNOR et qui pourraient être aussi un atout pour la reprise des entraînements et pour nos championnats, enfin tout au moins pour les entraînements, parce que ce sont des masques. S'il est difficile de les utiliser pendant les matchs, on peut très bien les utiliser pendant les entraînements. Donc c'est une découverte tout à fait récente, c'est une nouveauté. Il est très possible que dans les 15 jours à venir, on voit ces masques arriver sur le marché et commercialisés par des grandes marques de,